Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Discutons de l'innovation. Nous sommes 6 amis étudiants à l'UTC et nous vous présenterons 6 podcasts autour de l'innovation. Nous avons la chance d'enregistrer ces podcasts dans un studio de radio. Il s'agit de la radio graphite que vous pouvez écouter sur le 94.9 ou sur le site graphite.net. Ces podcasts sont réalisés dans le cadre d'un projet de science et débat public. Pour des raisons sanitaires, nous ne serons que 3 étudiants à parler par podcast. Et pour chacun d'entre eux, nous effectuons un roulement de personnes afin que tout le monde puisse participer. Aujourd'hui, il y a
Clémentine,
Manon
et moi-même, Elena. Alors, que discutons-nous durant ce podcast, Clémentine ?
Eh bien, pour commencer, nous allons commencer par la présentation d'innovations qui pourraient nous permettre de pallier à l'urgence climatique. Alors, pour commencer, nous parlerons de Biroc. Alors, Biroc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une innovation qui pourrait nous permettre de faire face aux récifs coralliens endommagés. Et ensuite, nous parlerons d'une technique qui est très recherchée aujourd'hui, c'est la technique de la capture et de l'enfouissement du CO2.
Bah, déjà, c'est moi qui vais commencer, du coup, avec l'innovation Biroc. Donc aujourd'hui, déjà, on sait que les récifs coralliens, ils sont endommagés par les activités anthropiques, comme la pollution, la pêche à la dynamique et au cyanure, mais également par des phénomènes météorologiques, comme les ouragans ou les cyclones. Mais maintenant, il y a encore 2 problèmes supplémentaires, le réchauffement climatique, mais également l'acidification des océans. Donc déjà, on sait que l'augmentation de l'acidité des mers, elle fragilise les structures minérales bâties par les coraux. C'est pour ça que 20% des récifs auraient déjà disparu actuellement et 56% seraient en danger. Donc voilà, c'est là que naît la technologie Biroc, pour pallier à ces problèmes que subissent les coraux.
C'est une bonne initiative, mais c'est quoi le but de Biroc ?
Bah, en fait, le but, c'est de construire des structures sur lesquelles des organismes peuvent se fixer, augmenter leur vitesse de croissance et avoir plus de chances de survie et même d'acquérir une meilleure résistance face aux perturbations environnementales.
Pardon. Super ! Et du coup, concrètement, comment ça fonctionne, la technologie ?
Le programme Biroc, il fait appel à l'électricité, en fait. On pourrait dire que le principe, c'est de hâter l'œuvre de la nature. Il se base sur la technique de l'accrétion minérale électrolytique. En fait, ça, c'est une technique de génie écologique expérimentée et promue par Wolf Hilsberg depuis 1988. Donc, en fait, ça fait déjà pas mal de temps. On pourrait dire surtout que c'est des structures métalliques sur lesquelles des coraux ont été fixés et sont immergés et ensuite parcourus par un courant de faible intensité provoquant une électrolyse de l'eau.
Bon, alors, ta technique, elle me semble un peu compliquée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne avec
En fait, c'est très simple. C'est 2 électrodes qui sont utilisées et le récif, il est construit autour d'une cathode qui attire vers elle des ions positifs, principalement ceux du carbonate de calcium et de l'hydroxyde de magnésium. Ces deux-là, ils sont très abondants dans l'eau de la mer. Et en fait, c'est cette teneur augmentée du milieu en ces ions qui va aider la structure à se recouvrir d'une croûte minérale nécessaire à la croissance des coraux. Donc en fait, ce substrat, il va accueillir un biofilm qui lui-même est favorable à l'ancrage et au développement d'organismes encroûtants ou fixés. Donc on remarque qu'au début de l'encroûtement électrolytique, la structure, en fait, elle va former un écosystème qui va croître et constituer le début d'un récif colonisable par de nouveaux coraux ou d'autres organismes. Et la première conséquence de tout ça, c'est que les coraux, ils grandissent bien plus vite sur le substrat électrochimiquement modifié par l'effet cathode, du coup avec ces ions qui sont attirés. Et ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'avec le temps, il va s'installer spontanément des espèces pionnières et ou d'autres espèces qui peuvent ensuite être greffées artificiellement pour aller plus vite et coloniser le substrat. Et juste pour finir, on peut dire que c'est grâce au support, qui peut être de la ferraille ou des grilles, qu'il est facile de configurer ou de réorienter la forme d'un récif pour mieux l'adapter, par exemple, au courant marin, mais également à d'autres espèces jugées prioritaires ou même à des fonctions du littoral. Ça peut aussi se configurer pour améliorer le trafic maritime ou faciliter le tourisme de découverte et des activités scientifiques. Et voilà, des choses comme ça.
Et est-ce que tu aurais quand même un petit exemple concret d'utilisation de cette technologie à nous présenter ou pas ?
Oui, bien sûr. Bah, en 2015, il y a une plaque de treillis soudée de 6 mètres sur 3 environ qui a été électrifiée avec un courant à faible voltage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et il a été positionné à l'appui de la barrière récifale, en fait plutôt au bord de la mer, où les vagues cassent. Et ça s'est fait en fait avec des fragments cassés de coraux qui ont été observés sur une grille et fixés. Donc cette expérience, elle a montré plusieurs choses sur ce site. Déjà qu'il était possible d'aider à la préservation des coraux en utilisant cette technologie, mais aussi qu'il était rapide de voir cette observation. Enfin, en 6 mois, ils ont déjà pu voir que les coraux étaient en croissance. Ensuite, la technologie Biroc, elle a elle a permis une croissance quasi physiologique des coraux, ce qui a même aidé les individus à résister aux attaques virales et aux périodes de réchauffement de l'eau, en fin août, quoi, quand c'est l'été et que l'eau est très chaude. Mais la dernière chose, c'est surtout que la calcification des coraux sur la grille rend le système extrêmement solide, puisqu'il a même résisté à deux cyclones majeurs, Gonzalo et Irma.
Ouais, mais ça a l'air hyper impressionnant, ce système. Mais si génial, tu sais où on peut l'installer, ce dispositif ?
Oui, il peut s'installer au large ou même dans des régions dépourvues de réseaux électriques ou de générateurs, puisqu'il peut être alimenté par des panneaux solaires.
Super.
Et par rapport à une autre technologie, c'est quoi vraiment les avantages phares de cette technique ?
Bonne question justement, puisque c'est la seule méthode pour l'instant disponible pour aussi rapidement restaurer un récif, et notamment des récifs morts à grande échelle à la suite d'un tsunami ou d'un phénomène de blanchissement des coraux à la suite de l'acidification des océans. Ça pourrait éventuellement être un moyen de doper la fonction de puits de carbone des océans. Vous savez, les océans, ils peuvent capter le CO2 de l'atmosphère, et donc on pourrait penser à diminuer le réchauffement climatique, mais bon, voilà, c'est beaucoup dire. Mais il ne faudrait non plus pas que ça génère des effets pervers comme une carence de l'eau en oligo-éléments. Et un dernier avantage, ça serait, comme je l'ai dit précédemment, les structures s'alourdissent avec l'âge, deviennent très solides, s'attachent au fond de la mer et elles pourront même attirer toute autre forme de vie marine.
Vraiment, ce que tu nous expliques là, ça a l'air idéal, mais est-ce qu'il y a des limites ou des risques par rapport à ce dispositif ?
Oui, comme toute innovation, tout n'est pas parfait. Déjà, ça nécessite une source d'électricité, en général des panneaux solaires, un générateur, ou ça pourrait même être une petite éolienne flottante sur une bouée. Et aussi, c'est un procédé récent, donc il doit être réévalué à long terme, moyen terme, et dans une grande variété de milieux. Mais à ce jour, il semble que c'est le plus efficace pour restaurer rapidement un récif. En plus, la structure, elle doit être positionnée à un endroit où les conditions nutritives, de courant et d'ensoleillement conviennent aux procédés et aux coraux. Mais ce lieu, du coup, il doit aussi posséder des caractéristiques convenant à l'attraction, la protection et la nourriture des espèces que le récif doit attirer et abriter. Et enfin, il doit résister aux vagues et aux tempêtes, même peut-être aux tremblements de terre, aux tsunamis. Ah, et je tiens juste à noter quand même que c'est quand on introduit des coraux ou des organismes artificiellement pour une colonisation plus rapide, c'est quand même difficile parce que ces coraux, ils doivent être prélevés localement et être réintroduits sur le récif artificiel de manière à retrouver de bonnes conditions d'habitat comme la hauteur, l'éclairement, les nutriments, tout ça.
D'accord.
Mais du coup, est-ce que cette technologie, elle a déjà été expérimentée dans le monde ? Est-ce qu'elle est en cours de développement ? Enfin, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, ces structures, elles ont surtout été expérimentées dans l'océan Pacifique pour réparer les dégâts du dernier tsunami, celui-là qui a touché Fukushima, je pense que vous savez. Mm-hmm. Et en 2008, il y avait déjà des projets de type Biorock en cours de développement dans 15 pays au moins, comme les Maldives, les Seychelles, en Thaïlande ou en Indonésie, au Mexique, à Panama. Mais dernièrement, il y a une zone un peu inexplorée, c'est les bancs ou récifs de Sayamala, c'est au nord-est de l'océan Indien. Et dans ce dernier endroit, il y a eu une tentative de création d'une petite île artificielle autoconstruite par des coraux, justement, sur une structure de base de type Biorock. Et Hilsberg, le créateur de cette électrolyse que je vous expliquais avant, il a fait plusieurs expéditions là-bas pour expérimenter la création et la culture des bases de cette petite île sur une structure d'acier ancrée à 11 mètres de profondeur. D'après certaines sources, ça s'appelle déjà Autopia ou Saya Autopia, cette petite île, et elle pourrait même se déclarer comme une micronation, même si certains pensent qu'elle pourrait être annexée par l'île Maurice si le corail pousse suffisamment pour produire un véritable îlot.
D'accord, mais en tout cas, ce que tu nous vends là, ça a l'air pas mal.
Oui.
Du coup, je pense que Clémentine, tu as une deuxième innovation à nous présenter. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, on va parler de la capture et du stockage du carbone, donc du CO2. Mm-hmm. Donc, avant de parler de tout ça, il faut vraiment qu'on prenne en compte les accords de Paris et le plan climat. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des accords universels qui vont nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique. En gros, prendre des mesures pour un avenir meilleur.
Super.
L'objectif ici... l'objectif un peu, ce serait de limiter l'augmentation de la température mondiale d'ici à 2100 environ.
Mm-hmm. Mais du coup, comment on pourrait y parvenir à ça ?
Alors, pour y parvenir, il faudrait qu'on réussisse à diminuer de 40% nos émissions mondiales de CO2 d'ici 2040, ce qui semble un petit peu énorme. Et c'est pour ça que c'est un sujet de recherche très actuel, hein, la technique du captage du CO2. Et en fait, vraiment, pour atteindre cet objectif, la capture du CO2 en grande quantité, c'est vraiment un élément majeur. C'est ce qu'on appelle la technique du CCS, donc c'est le Carbon Capture and Storage.
Ça a l'air intéressant, mais ça consiste en quoi ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est capturer le carbone et le réinjecter. Donc, en gros, on prend le carbone qui était présent dans notre air et on l'injecte dans nos sous-sols. C'est ce qu'on appelle une industrie bas carbone.
Ok, je vois. Et du coup, ça permettrait quoi ?
Alors d'abord, bah, ça nous permettrait de réduire l'émission de CO2 de certains secteurs. Donc on peut par exemple penser au secteur énergétique, au secteur agroalimentaire. Donc ça pourrait aussi nous aider dans notre lutte contre le réchauffement climatique, hein, avec le plan climat, les accords de Paris. Voilà. Il faut savoir ici que il existe énormément de technologies qui vont nous permettre de capter le CO2. Mais ici, on va parler vraiment de la plus avancée, celle qui est au cœur des discussions. Il s'agit de captage par absorption chimique.
D'accord. Et tu pourrais nous en dire plus à propos de cette technique, s'il te plaît ?
Alors, parlons de cette technique du captage par absorption chimique. En fait, ça permet quoi ? Ça permettrait de séparer le CO2 de la fumée. À l'aide de quoi ? Eh bien, à l'aide d'un solvant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire dans une grande colonne les fumées. Alors, les fumées, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, ce sont les fumées qui ont été produites par nos activités industrielles et par la production d'énergie. Dans cette colonne, on ajouterait quoi ? On ajouterait un solvant, on va le chauffer, ça va nous permettre vraiment de séparer notre CO2 des autres composants. Ensuite, on va comprimer le gaz, on va le refroidir. Vous me direz, à quoi ça va servir ? Eh bien, ça va nous permettre de le liquéfier, parce que si le gaz est liquéfié, eh bien, on a un transport et un acheminement qui va être beaucoup plus simple, en fait, vers les sites de stockage.
D'accord, j'ai compris. Mais du coup, finalement, t'en fais quoi de ton CO2 capté ?
Alors, c'est un petit peu ça la grande question et le problème de cette technologie. En fait, l'objectif, ça va être de le stocker géologiquement. C'est-à-dire qu'on va séquestrer de manière durable des volumes importants de CO2 dans les sols. Donc en fait, là, l'idée, ce serait de stocker en profondeur ce gaz qui serait piégé dans la roche et en stocker environ 20 millions de tonnes de CO2 sous la mer du Nord.
Ben dis donc.
Ok. Je vois, mais pourquoi sous la mer du Nord en particulier ?
Alors, pourquoi sous la mer du Nord ? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, ce site norvégien, il est extrêmement intéressant. En fait, il est riche en saumure. Alors, la saumure, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est vraiment une eau qui est extrêmement salée et qui permet aujourd'hui de déshydrater et de stocker le gaz. Enfin, en fait, ça nous permet de déshydrater des choses au quotidien pour les stocker, etc. Mais ici, en fait, ce serait vraiment la même idée. En fait, on va déshydrater, stocker notre... Enfin, on va pas déshydrater notre gaz, mais voilà, on va le stocker, on a compris, etc. Ouais. Et... il y aurait peut-être même une partie qui serait dissoute. Donc ça, c'est très intéressant.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une eau qui est trop riche en sel. Parce que dans le cas d'un scénario où on viendrait à manquer d'eau potable, où il faudrait prendre de l'eau de la mer, la dessaler, etc. Là, c'est clairement impossible. C'est beaucoup trop riche en sel. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment notre première idée. Et ensuite, la deuxième idée, ce serait de valoriser le CO2 sur différents marchés. Donc on pourrait par exemple penser aux carburants alternatifs ou encore aux produits chimiques.
D'accord. Et mais qu'est-ce que ça permettrait ?
Alors, qu'est-ce que ça permettrait ? Si la totalité du CO2 qui a été émis est captée par l'installation, la nouvelle installation, alors notre site va devenir neutre en carbone, ce qui peut être extrêmement intéressant. une autre manière aussi d'atteindre... Enfin, c'est pas une autre manière, en fait. Il y a aussi une autre technique, on va dire, ce serait de remplacer tous nos combustibles fossiles par de la biomasse. Pourquoi de la biomasse ? Parce qu'en fait, tout au long de sa vie, notre biomasse, elle va capter du CO2 pendant sa croissance. On peut penser, par exemple, à l'arbre qu'on a en face de chez nous. Eh bien, tout au long de sa vie, il aura capté du CO2. Et en fait, ce type d'installation, comme on va vraiment brûler en fait, cet arbre, par exemple, eh bien, ça nous permettrait même de retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc en fait, on a une installation qui avant émettait énormément de CO2, qui va devenir neutre en carbone et qui maintenant va même devenir négative au sujet de ses émissions en carbone. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Donc voilà, ça peut être très intéressant, par exemple, dans tout ce qui touche les énergies fossiles, hein, notamment le charbon, parce que clairement, c'est eux les principaux émetteurs et c'est vraiment une grande partie des émissions de CO2, quoi.
C'est marrant parce qu'il me semble déjà avoir entendu parler de cette technique.
Eh oui, tu ne rêves pas. Il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle technique, puisqu'en fait, elle existe depuis les années 70. Mais il faut savoir que c'est vraiment aujourd'hui qu'on va chercher véritablement à l'utiliser et à la développer à grande échelle. On peut d'ailleurs voir ça, hein, parce qu'en 2016, on va avoir la création d'un fonds de 1 milliard de dollars, rien que ça, Donc ça s'appelle le Oil and Gas Climate Initiative. Et c'est fait pour développer ces technologies qui nous permettraient de réduire la présence de CO2 dans l'air. Donc on peut notamment parler de notre technique du CCS qui en fait partie, mais on peut aussi citer l'amélioration de l'efficacité énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables. Donc là, le problème un peu avec cette technologie, cette technique, c'est qu'on ne va pas vraiment chercher à adapter ou à réduire notre consommation d'énergie. Là, vraiment, il faudrait un changement radical de notre consommation. Ce serait totalement nécessaire si, d'ici 2100, on veut atteindre nos objectifs. Ça peut aussi être choquant pour certains de voir que les industriels vont vraiment investir énormément d'argent et vont manifester un grand intérêt pour ces technologies, puisque bien évidemment, l'objectif, ce serait de décarboner massivement leur site de production. Mais en fait, on se rend compte que là, leur objectif, ce serait plutôt de réduire les effets avant de s'en prendre aux causes. Enfin voilà, ça paraît un peu bizarre quand même. Et pour certaines associations écologiques, ça permettrait même aux industries fossiles, là c'est un exemple parmi d'autres, ça leur permettrait en fait de ne pas revoir leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait on compenserait les effets au lieu de réduire tout simplement les causes.
Ouais, c'est un vrai problème quoi.
Un peu, ouais.
Justement, tout ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, je trouve. Et j'ai l'impression que ça nous amène maintenant à nous intéresser à différentes problématiques en lien avec l'innovation. C'est pour ça que maintenant, nous allons tout d'abord parler du recyclage, de ce que c'est concrètement, de ses limites, pour ainsi arriver à se questionner sur le solutionnisme technologique, ce que tu as un peu commencé à expliquer, en fait, que nous définirons par la suite. Et on va passer par différents exemples, comme par exemple le nucléaire qui l'illustre plutôt bien. Mais d'abord, on peut commencer par aborder le recyclage en parlant de l'obsolescence programmée et culturelle. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Alors, j'ai une vague idée, mais je suis pas sûre.
Ok. Déjà, cette obsolescence, elle est programmée parce que la durée de vie d'un objet est diminuée par le fabricant pour inciter le consommateur à acheter à nouveau ce produit. Mais ensuite, elle est aussi culturelle parce que les consommateurs vont plus avoir tendance à acheter un produit qui aurait un effet de mode qu'un autre. Et donc, l'effet serait accentué par la pression sociale. En plus, on sait que depuis le début de l'ère industrielle, les progrès techniques réalisés n'ont pas résolu le problème du recyclage des déchets, mais il les a surtout déplacés. Je vais être plus précise. Par exemple, quand un produit est jeté, soit il est recyclé, donc oui, il est réutilisé sur plusieurs cycles, mais au bout d'un moment, il ne va plus fonctionner et il va être jeté de la même manière qu'un autre produit qui n'aurait pas été recyclé et qui va être incinéré ou mis en décharge, ce qui n'est quand même pas très écologique.
Du coup, là, tu nous parles d'un fléau, cette obsolescence. Mais t'aurais pas, enfin, il n'y a pas une solution qui existe pour pallier à cette obsolescence programmée ?
C'est quand même, je pense, une grosse question qui c'est pourrait faire un débat ou un podcast entier. Mais on pourrait quand même penser à impacter directement à la source de la production, je pense, en limitant les fabricants, peut-être en imposant des taxes, mais c'est vrai que ça va directement impacter leurs profits et on sait que le petit profit n'existe pas. Donc je pense surtout que c'est un problème de conscience de la part des gouvernements, mais aussi de l'organisation de la société actuelle. Donc ouais, c'est une grosse question.
Ok. Du coup, là, tu nous as un peu introduit le recyclage. Mais du coup, en fait, c'est quoi concrètement le recyclage ?
Du coup, je vais vous en parler là. Bon, okay. J'imagine que vous êtes déjà toutes et tous familières au recyclage.
Un peu, ouais.
Oui. Mais bon, je vais quand même vous remémorer vraiment ce qu'il se passe précisément. Alors, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, les bouteilles en plastique. Donc, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde les met, j'espère, dans le bac de tri. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée au centre de tri ? Alors, elles sont séparées selon différents types. Par exemple, il va y avoir une séparation selon si elles sont opaques, transparentes, colorées, etc. Après, elles seront compactées par type de bouteille en grands paquets. Ces grands paquets, ça s'appelle des balles de bouteilles. Et en fait, c'est pour faciliter le transport. Ensuite, arrivées à l'usine, les bouteilles, elles sont séparées, nettoyées. Et en plus, elles sont broyées en petits morceaux qu'on appelle des paillettes de plastique. À partir de là, il y a plusieurs devenirs. Elles peuvent devenir des nappes de toiture, par exemple, ou alors elles peuvent être aussi fondues et remodelées pour faire des fibres textiles ou aussi des nouvelles bouteilles. Bon, là, je vous donne des étapes, mais concrètement, en fait, en chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Alors, pour un Français, je vais vous dire ce que ça représente. Un Français consomme en moyenne 96 bouteilles plastiques par an. C'est une moyenne. Alors, il y a des extrêmes, bien sûr, mais qu'est-ce que ça représente dans l'Europe ? En fait, le Français, c'est vraiment un grand consommateur d'eau en bouteille. C'est vraiment dans le top 5 des pays qui consomment le plus d'eau en bouteille en Europe. Et le problème, c'est que la production de plastique a été multipliée par 50 en 50 ans en France. Et elle continue d'augmenter. Donc là, je me suis quand même posé une question parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a quelques années, il y a des bouteilles avec des fils qui sont apparues. Vous avez vu ça, non ?
Ouais.
Et du coup, malgré ça, la consommation de bouteilles en plastique, elle n'a pas diminué. Donc c'est vraiment, je pense que ouais, c'est une erreur du solutionnisme, je pense. Après, la production d'une tonne de plastique recyclé permet d'économiser 5 barils de pétrole, ce qui est énorme. En gros, le recyclage, c'est vraiment hyper utile pour vraiment la planète, quoi. Et selon la fondation Ellen MacArthur, donc c'est une fondation caritative en Angleterre, en produisant du plastique recyclé plutôt que du plastique issu du pétrole, nous pourrions économiser 80 à 90% d'énergie autour de notre consommation de plastique. Ça, vraiment, c'est énorme, étant donné que tout se base sur l'énergie. Donc voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi.
Oui, je suis d'accord. Et je trouve que tu as hyper bien expliqué. Enfin, j'ai bien compris. Enfin, j'ai mieux compris, parce que je ne savais pas trop. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de recyclage et de valorisation, mais il y a une différence entre ces deux termes.
Bon, alors déjà, il faut noter que va pas y avoir une différence énorme entre le recyclage et la valorisation. Mais il y a quand même des petites différences dont on peut parler, en fait. Donc déjà, le recyclage, c'est quoi ? Enfin, c'est quoi son objectif, en gros ? L'objectif, ça va être de redonner une fonction à des composants d'objets en fin de vie, ou alors de redonner une fonction à des déchets.
Ouais.
Donc là, en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on traite des composants pour leur redonner une seconde vie. En gros, on va les réintroduire dans un cycle de production. Et la valorisation, de l'autre côté, ça, c'est l'ensemble des opérations qui nous permettraient de rendre à nouveau utile un objet qui était jusque-là considéré comme inutile. Okay. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut différencier vraiment deux branches de la valorisation. Donc, on a la valorisation matière et la valorisation énergétique. La valorisation matière, c'est lorsqu'on va réutiliser une matière qui compose un objet pour créer un nouveau produit. Donc là, vraiment, on se rapproche énormément du recyclage. Tandis que la valorisation énergétique, là, en fait, on va vraiment utiliser un déchet comme combustible afin de créer une nouvelle source d'énergie. Donc, par exemple, pour du chauffage, de l'électricité, etc. Et pour vraiment percevoir cette différence entre le recyclage et la valorisation, eh bien, on peut parler du fait d'incinérer des déchets. En fait, on va incinérer ces déchets et récupérer de l'énergie, mais ça, ce n'est absolument pas considéré comme du recyclage. Il s'agit ici d'une technique de valorisation énergétique. Donc là, on voit toutes les petites différences qu'il existe entre ces deux termes.
D'accord.
Ok, je vois.
Et du coup, si on prenait un déchet, par exemple, je ne sais pas, le recyclage du verre, tu sais comment ça se déroule ?
Moi, je pense savoir. Et en fait, c'est assez simple. Déjà, c'est nous, le particulier, qui assure en premier le tri du verre. Puis, c'est les collectivités locales qui vont assurer la collecte. Et déjà, cette collecte, elle se fait selon deux modes en France. La collecte en point à port volontaire et la collecte sélective en porte-à-porte. Donc déjà, la première, celle en point à port volontaire, elle représente 80% de la collecte de verre en France. Et en fait, les contenants de verre, ils ne sont pas affectés personnellement, mais c'est la collectivité qui met en place un réseau de contenants pour les usagers. En fait, c'est ce que vous trouvez dehors la plupart du temps. Ça fait 2 à 4 mètres cubes. Et justement, soit c'est sous forme aérienne, donc les bidons sont en dehors du sol,
quoi.
Voilà.
Ouais.
Et sinon, ils peuvent être enterrés et juste il y a un trou dans le sol et on met nos bouteilles comme à la surface, comme ça, pour qu'elles tombent au fond. Alors que la collecte sélective en porte-à-porte, c'est un autre mode d'organisation dans lequel un contenant est affecté à un groupe d'usagers et où le point d'enlèvement des déchets est situé à proximité immédiate du domicile de l'usager ou du lieu de production des déchets. Et ça, par contre, ça représente que 20% de la collecte du verre en France. Et sous quelle forme ? C'est plutôt des bacs à roulettes, des caisses, des sacs. Donc sur ça, c'est un peu plus basique. Et ensuite, ces collectivités, elles vont porter le verre vers un centre de tri où le verre va être trié par taille, les bouteilles, les flacons. Et c'est seulement après qu'ils vont être nettoyés des impuretés qu'ils contiennent, comme les métaux, les plastiques, les étiquettes ou encore les bouchons. Et finalement, ça sera nettoyé de la matière organique, mais par deux étapes différentes, une plus grossière, mécanique, qui est manuelle, et une plus précise par le biais de l'optique, en fait.
D'accord, c'est intéressant tout ça. Et tu sais ce qui se passe une fois que tous les différents stades de tri ont été effectués ?
Oui, une fois que tous ces différents stades de tri sont effectués, comme tu l'as dit, le verre est broyé pour devenir du calquin. Et ensuite, il va être refondu dans des fours verriers et soufflé dans des moules pour redevenir des emballages de même qualité. Mais attention, l'industrie, elle ne peut pas fabriquer du verre uniquement à partir de calquin, parce qu'il est nécessaire d'introduire des matières premières naturelles afin de corriger les propriétés du lit de fusion. Je m'explique, c'est juste les propriétés du verre, comme la couleur, les propriétés optiques ou mécaniques. Et comme ça, on obtiendra une homogénéité dans la qualité du produit fabriqué à la fin.
D'accord, d'accord.
Mais du coup, là, tu nous parles depuis tout à l'heure du recyclage, etc. Mais moi, concrètement, si j'ai mis ma bouteille en verre dans un bac à verre, qu'il est allé dans une usine, qu'il a été recyclé, etc., bah, qu'est-ce qu'il devient, en fait ?
Bah justement, une fois qu'il est recyclé, refondu et remoulu pour en faire des nouveaux emballages de même qualité, comme je l'ai dit avant, ces bouteilles, ces bocaux, ces pots ou ces flacons, je ne sais pas, ils sont re-remplis dans les usines d'embouteillage et ils vont rejoindre le circuit de distribution, les magasins, puis à nouveau être sur nos tables de consommateurs, quoi.
Ok. Mais du coup, pourquoi ce recyclage du verre, eh bien, il serait vraiment important, en fait ?
Bah, vraiment, c'est important parce que déjà, c'est recycler le verre, c'est un geste écologique, simple et efficace qui est à la portée de nous tous. Et surtout parce que c'est le seul matériau d'emballage recyclable indéfiniment. Je vais m'expliquer. Mais déjà, les procédés de recyclage sont sûrs et sans danger pour l'environnement. Et ils permettent de réduire le prélèvement des ressources naturelles. En effet, aujourd'hui, plus de la moitié du verre d'emballage ménager consommé en France est recyclé, ce qui représente près de 2 millions de tonnes qui ne vont pas en décharge et autant de matières premières économisées du coup. Ensuite, ça permet également d'économiser de l'énergie, ce qui se traduit également par une diminution des émissions polluantes liées à la consommation d'énergie. Et pour finir, c'est aussi un engagement de reprise pour un recyclage réel, totalement assumé par l'industrie verrière. Donc c'est là qu'on comprend que le verre n'est jamais un déchet, et lors des différents recyclages qu'il va subir, il ne perd en aucun cas ses qualités premières. Il reste, c'est vraiment infini, c'est circulaire.
Ok.
Désolée.
Ok. Mais du coup, là, on va voir... là, on a parlé du recyclage, etc. Beaucoup de points positifs et tout. Mais maintenant, on va voir quelles en sont ses limites. Du coup, peut-être que tu peux nous éclairer un petit peu sur ses limites.
Il n'y a pas de problème. Alors, les limites, je vais vous les présenter par type de produits issus des déchets ménagers produits en 2019. Alors, je dis par type parce que, justement, ces limites, elles se font par type de produits. Alors, premièrement... l'acier, le verre, l'aluminium, le papier et le carton sont des déchets qui se recyclent très facilement. On prend par exemple l'exemple de l'acier qui se recycle à 100%. Donc ça vraiment c'est super. Par contre, on a deux autres produits par exemple, l'électronique et le plastique, qui sont beaucoup plus difficiles à recycler. Alors je m'explique. Dans les produits électroniques, il y a des petits composants. Et ces composants, en fait, ils sont trop petits pour être séparés et récupérés dû au fait que les technologies de recyclage sont trop peu développées à ce niveau et elles sont non rentables. Quant au plastique, il y a deux profils qui ressortent. Les bouteilles et les flacons, qui représentent 70% du plastique recyclé, et les emballages qui ne font que 29%.
D'accord, mais pourquoi les emballages ils sont pas plus recyclés que ça ?
C'est une bonne question. En fait, premièrement, parce qu'il y a un grand manque d'informations et de sensibilisation. En fait, c'est juste les consommateurs qui font des erreurs de tri quand ils mettent leurs déchets plastiques, les emballages à la poubelle. Il y a aussi, malheureusement, une grosse diminution du budget pour le secteur du recyclage depuis 2016. En fait, je trouve ça un peu contradictoire parce que le gouvernement, et même pour l'aspect de la planète, on veut que tout soit recyclé, mais au final, il y a des cuts de budget. Donc, je trouve ça très contradictoire.
Cool. Ouais.
Et finalement, il faut savoir que le plastique ne se recycle que 2 ou 3 fois max. C'est vraiment une grosse différence par rapport au verre. Et aussi, jusqu'à 2019, il y a eu une abondance de plastique à usage unique. En fait, on les utilise une fois et hop, direct, c'est poubelle. Sauf que ça, c'est un plastique comme un autre. C'est très compliqué à recycler. Et heureusement, en 2019, il y a eu une loi qui interdisait en fait les plastiques à usage unique dans la restauration, tout ça. Et à propos des suremballages en fait et des films plastiques des produits alimentaires, les instances de recyclage devront les recycler d'ici 2022. Mais ça c'est comme le cut de budget en fait, moins de budget, du coup c'est beaucoup plus compliqué de créer des nouvelles technologies beaucoup plus développée, précise en fait pour retirer par exemple les composants ou alors ces emballages alimentaires. Et du coup, c'est très difficile à recycler et aussi le rapport entre le coût de tri et le prix de revente est très peu avantageux finalement.
Et du coup, là, tu nous as parlé vraiment de tout le recyclage, etc., de toutes leurs limites. Mais concrètement, ça va être quoi les conséquences de ces limites pour nous, par exemple?
Ouais, bah, les conséquences, elles sont nombreuses. Hein. Alors, la première, forcément, c'est que seulement 30% du plastique produit est recyclé en Europe. Donc ça, sur 26 millions de tonnes par an, ça fait quand même un gros paquet. Et ils sont à 70% enfouis et incinérés. Donc ça, forcément, ça impacte l'environnement. Et forcément, c'est pas cool, quoi. Après, le recyclage, ça pollue l'air, l'eau, et ça émet aussi du CO2. Donc la production émet du CO2, le recyclage émet du CO2. On n'est pas sur un bon deal, là. Et après, il n'est plus viable de produire des nouveaux produits plutôt que les recycler, finalement. Ça, voilà. C'est triste.
Et du coup, nous, là, on a parlé vraiment du recyclage, etc. Et en fait, on arrive à un point très intéressant qui est la question du solutionnisme technologique, hein, qui est un point important de notre podcast aujourd'hui. Pour cela, on a interrogé un étudiant qui a bien voulu répondre, donc Julien Richet. On va vous mettre un petit peu ses réponses au sujet de trois thèmes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le solutionnisme technologique? Ensuite, si on lui a demandé s'il avait une innovation à partager avec nous. Et ensuite, nous discuterons de son opinion au sujet de ce solutionnisme.
Super.
Le solutionnisme technologique, c'est vouloir résoudre un problème en faisant seulement appel à la technologie et en particulier au numérique. Si on l'applique à l'écologie, pour avoir quelques exemples, c'est pour moi raisonner comme Bill Gates, c'est-à-dire, comme il le dit dans son livre qui est récemment paru, c'est vouloir conserver typiquement le mode de vie occidental, mais en apportant diverses solutions, typiquement pour l'aviation, se dire on vole autant, sauf qu'on remplace le carburant, on remplace les hydrocarbures fossiles par de l'hydrogène ou des avions électriques. C'est pareil pour la voiture, remplacer des voitures par des voitures électriques, etc.
Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le solutionnisme, nous allons voir une innovation qu'il aurait aimé nous partager.
D'ailleurs, pour moi, le solutionnisme technologique, ça fait vraiment appel au high-tech, donc à des technologies numériques complexes qui reflètent toute... l'ingénierie, la technique que l'humain a mis en œuvre et a développée jusqu'à nos jours, quoi, pendant la révolution industrielle. Et pour moi, ça s'oppose au concept de low-tech, qui, elles, sont des technologies plus sobres, qui font appel à beaucoup moins de complexité et qui répondent vraiment à des besoins présents et essentiels et qui sont plus durables. Donc pour répondre à la question « aimeriez-vous partager une innovation ?», comme j'ai dit juste avant, en fait, pour moi, c'est pas du singulier, c'est pas une innovation, mais c'est des innovations dont on a besoin qui vont être mises en place dans un certain contexte qui va faire qu'elles vont réussir ou pas, qu'elles vont prospérer ou pas. Et donc, non, j'ai pas particulièrement d'innovation à partager, quoi, à part ce concept low-tech.
Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu du concept de low-tech, on va voir aussi l'opinion de Julien Richet sur le solutionnisme.
Alors, que penser du solutionnisme technologique? Comme tout, en fait, c'est pas la solution, il n'y a pas de la solution. Typiquement, le changement climatique et la chute de la biodiversité, c'est un problème systémique. C'est ça que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Donc... De mon point de vue, ça peut être intéressant. Enfin, il y a clairement des outils innovants autour du numérique qui peuvent être pertinents. Sauf que il est vraiment important en fait de considérer les aspects sociétaux, les aspects sociaux, humains et culturels aussi dans ces solutions technologiques. Sinon, elles ont comment dire ça, elles ont peu de chances en fait d'être efficaces, et même l'inverse, le fameux effet rebond, typiquement quand on a voulu remplacer les lampes incandescentes par des LED qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement parlant, c'est-à-dire qu'elles consomment beaucoup moins d'énergie pour éclairer autant. Bah finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a installé beaucoup de LED, plus de LED, plus de lampes qu'avant. Et donc finalement, bah, la consommation des lampes, de manière générale, a augmenté, alors qu'on a des lampes de plus en plus efficaces. Donc c'est assez paradoxal. C'est comme aussi un autre exemple, c'est vouloir typiquement remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, comme des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Mais finalement, on voit qu'il y a aussi là une opposition de la part de la population, et ça montre bien que si on ne considère pas bah, la population, si on ne fait pas de concertation, bah, les gens ils voient un truc inconnu arriver à eux, c'est-à-dire installer une éolienne dans leur commune, et directement ils vont être là, mais non, pourquoi ils installent ça, nous ça ne nous va pas, c'est pas joli de vue, en plus ça va impliqué de raser des arbres, ils disent que ça fait du bruit, etc. Et typiquement, il ne faut pas... Enfin, je pense que ça, c'est un point important à prendre en compte. Il ne faut pas infantiliser en fait, les citoyens et faire des conférences citoyennes qui vont se transformer en fait, plutôt en cours de la part d'experts vers les citoyens. Il faut vraiment que ce soit un débat. Et pareil, à mon avis, il faut, quand il y a un projet, une solution technologique, il faut pas que les experts, disons, définissent le projet et ensuite en parlent aux citoyens, mais il faut vraiment que le projet soit construit avec les citoyens concernés directement par le projet.
Donc après ces audios très intéressants, en fait, on va essayer de comprendre un petit peu plus concrètement le solutionnisme technologique, hein, ne serait-ce pas le fait de dédouaner le fait de polluer. Donc pour commencer, pour mieux comprendre, on va parler d'exemples concrets. Donc on peut par exemple citer le chercheur et essayiste Evgeny Morovos. Donc pour qui, eh bien, le solutionnisme est simplement une analyse à la fois simpliste et superficielle des problèmes que l'on rencontre. Ce serait en fait une volonté un petit peu romantique et révolutionnaire de les solutionner. Par exemple, on peut citer l'exemple de Microsoft, hein, qui chercherait à devenir totalement neutre en émissions carbone d'ici 2025, mais qui veut aussi avoir une empreinte négative d'ici 2030, c'est-à-dire que la firme éliminerait plus de CO2 qu'elle n'en produirait, ce qui pourrait sembler un petit peu trop optimiste.
D'accord, je vois. Mais comment y parvenir, du coup ?
Alors, pour y parvenir, eh bien déjà, Microsoft nous explique qu'il va subventionner en fait des replantages d'arbres, et c'est-à-dire qu'en fait, il participerait aussi au financement de la nouvelle technologie, hein, qui est d'enfouir ce CO2 capturé dans l'air et de l'enfouir dans le sol, donc la technique du CCS. Là, vraiment, clairement, on est sur un magnifique exemple du solutionnisme technologique, hein. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Microsoft s'autoriserait un petit peu une licence à polluer. Vu qu'ils replantent des arbres, ils peuvent quand même continuer à émettre du CO2, puis ils vont le reprendre et le mettre dans le sol. Donc ça va.
Et ouais, je suis bien d'accord. Mais du coup, planter un arbre, est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment efficace ?
Ta question est très intéressante parce qu'en fait, ça a été même prouvé que de replanter de jeunes arbres, en fait, c'est 6 fois moins efficace que de protéger une forêt d'arbres matures. Donc là, le projet de Microsoft semble un petit peu bancal.
Ouais, c'est triste.
En tout cas, je trouve que ce que tu as dit, ça illustre vachement bien le solutionnisme technologique. Mais j'ai l'impression qu'on trouve aussi cette idée dans le débat sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Et je pense qu'on pourrait prendre l'exemple du projet Cigéo à Bure. Est-ce que vous voyez ce que c'est, ce projet ?
Ouais, je pense que je vois ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ?
Plus précisément, ce projet Cigéo à Bure, il vise à enfuir les déchets nucléaires les plus radioactifs du pays en 2030 pour des centaines de milliers d'années. En fait, pour un exemple concret, la surface, elle représente plus de 2 fois celle de Paris.
C'est énorme.
Ouais, soit 108 000 mètres cubes de déchets radioactifs dits à haute activité, et à moyenne activité à longue vie. Donc ils y seraient enfuis et ça serait à peu près l'équivalent de 43 piscines olympiques de 2 mètres de profondeur. Donc oui, c'est vraiment énorme.
Ouais, d'accord. Ouais.
Si je peux commencer ce débat, si vous me permettez. Il y en a quand même qui sont un peu pour cet enfouissement à Bure. Déjà parce que quand on parle d'enfouissement profond à 500 mètres sous terre, qui serait dans une couche d'argile. Et l'argile est connue pour ses qualités en matière d'imperméabilité, donc ce qui garantirait aucun risque en soi.
Ouais, mais je me permets de t'interrompre parce que quand même, la couche d'argile, elle risque d'être déstabilisée à un moment à cause de tous les travaux de forage, tout ça. Surtout que les épisodes sismiques, ils ne sont pas évités. Et du coup, ça peut complètement compromettre la stabilité de l'installation, non ?
Certes, peut-être, mais déjà, ce n'est pas une installation de surface. Ce n'est pas une usine chimique ou ce n'est pas une installation nucléaire. Donc, il y a moins de risques d'accident en surface, puisque c'est enfoui à 500 mètres sous terre, comme je l'ai dit avant, et c'est vraiment complètement confiné. Donc, il n'y aurait pas de problème, d'après certains experts.
Ouais, bon, là, j'ai 2-3 choses à dire. Hein. Parce que déjà, il peut y avoir des incendies. Et si un incendie, par exemple, il touche un conteneur avec des substances radioactives, ça peut se propager hyper facilement, en fait, vers tous les autres conteneurs. Après, il y a aussi, du coup, des risques d'infiltration et de dispersion de la radioactivité. Et à propos du fait que ça soit confiné, c'est pas hyper vrai. Parce que sur le papier, en fait, c'est dit que le site CIGEO, il va fonctionner pendant un siècle, avant d'être définitivement condamné, tout ça. Sauf que ça va durer plus longtemps que prévu, en fait. À la sortie, les déchets radioactifs hautement dangereux, en fait, ils doivent être mis dans un espace ventilé, tout ça, tellement, en fait, ils sont dangereux et du coup, c'est censé atténuer leur radioactivité. Et à partir d'un certain seuil, ils vont pouvoir être mis dans l'installation, en fait. Donc, certes, je pense qu'il va y avoir, au début, des déchets moyennement radioactifs qui vont être mis pour quand même commencer le projet, tu vois. Mais ça sera vraiment, ça pourrait être entreposé, les hyper radioactifs, que d'ici 2075. Et ça, c'est dans longtemps, quoi.
Oui, sur ça, je pense que tu as raison. Mais avant, tu as parlé d'incendie. Et sous terre, je pense un incendie comme ça, c'est difficile. Enfin, c'est quand même profond. Puisque je sais qu'il y a des gens qui s'inquiétaient même pour les terres agricoles. Mais les terres agricoles, c'est que sur quelques dizaines de centimètres. Donc, ce n'est pas un problème, l'agriculture. Mais là, c'est pareil, c'est très profond sous terre. Et d'après beaucoup d'experts, c'est bien imperméabilisé. Enfin, c'est confiné. Et même s'il y a des risques de fuite, c'est vraiment minime. Et certes, c'est sur un temps long. Mais en soi, je pense que je peux partager ton avis, je comprends. Mais il y a quand même une autre raison aussi à prendre en compte. C'est la raison économique quand même. Parce que Bure, faut pas se mentir, il n'y a pas trop d'activité. C'est dans la diagonale du vide, ça offre des emplois.
C'est pas faux.
Donc des gens peuvent sortir cet argument. Et surtout que l'ANDRA, du coup l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, elle a versé 30 millions d'euros au département impacté. Et ça, l'argent, c'est pas négligeable.
Tu
peux pas négliger.
Mais pour cet aspect économique, mais si on en croit les dires du maire de Bure, lui, il est carrément impacté en fait. Parce qu'avant ce projet, les maisons là-bas, elles se vendaient comme des petits pains. Et maintenant, c'est niette en fait, il n'y a plus rien. Et du coup, je pense que ça va amener à une sorte de dépeuplement de la zone, tu vois. Déjà que c'est à la diagonale du vide, mais alors là, il ne va vraiment plus rien avoir.
Oui, mais pourtant, on peut se dire que dans 200 000 ans, ces déchets ils seront plus autant radioactifs et ils auront atteint une radioactivité tout à fait naturelle et normale. Et certes, c'est dans longtemps, mais forcément, à un moment, la radioactivité, elle va décroître.
C'est pas faux, ouais. Mais niveau éthique, c'est compliqué, quoi.
Oui,
parce
non,
que là,
je suis d'accord.
Certes, c'est la génération des personnes qui vont mettre les déchets, tout ça, mais dans quelques générations, il va y avoir d'autres personnes qui vont se dire « C'est quoi ça ? Nous, on n'a jamais voulu ça. » Par exemple, un parent qui habite encore à Bure, son enfant, lui, à la limite, s'il est impacté, il se dit « Bon, c'est pas si grave. » Mais si c'est son enfant, à mon avis, c'est totalement une autre opinion, tu vois.
Quand même.
Donc voilà, ça met, je pense, une grosse responsabilité sur les générations futures, quoi. Tu vois, le risque d'un danger, c'est jamais. Le risque, il est jamais nul, tu vois.
Surtout sur un temps aussi long.
Oui,
c'est vrai, c'est très long.
100 000 années, vraiment, c'est dur.
Est-ce qu'on sera encore là?
Oh, bah, je pense pas. Hein. Bon, en vrai, pour conclure, je pense que l'État français, il devrait rapidement sortir du nucléaire, tu vois.
Oui,
c'est vrai. Enfin, tu vois, pour ne plus produire des déchets dont il ne sait pas faire, mais plutôt que se confronter à ce dilemme, tu vois, il devrait directement changer. Et bon, on sait
que c'est impacté à la source, quoi.
Ouais, on sait que là, c'est plutôt compliqué, quoi. Il faudrait agir maintenant. Ça fait longtemps qu'on doit agir maintenant.
Et oui, l'urgence climatique, l'urgence. On connaît ce mot, urgence.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, du coup, il faut se focaliser sur la question des déchets et non sur l'utilisation nucléaire en tant qu'énergie. Et pour ça, j'ai contacté un autre étudiant de l'UTC, Vincent Lemerle, plutôt calé sur le sujet de l'écologie. Et du coup, on a parlé du solutionnisme technologique et de son impact sur la société et l'écologie.
Alors du coup, là, ça fait quand même quelques minutes qu'on nous parle de ce solutionnisme technologique. Est-ce que cet étudiant pourrait nous donner sa définition du solutionnisme technologique?
Ça tombe bien parce que je lui ai posé la même question et voici sa réponse.
Donc, selon moi, le solutionnisme technologique, ce serait du coup une manière de résoudre n'importe quel problème auquel fait face l'humanité grâce à une innovation technique. Donc, si on prend par exemple la problématique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment les réductions des émissions de CO2, ce serait de remplacer toutes les énergies fossiles que nous utilisons par des énergies bas carbone, donc que ce soit l'éolien, le solaire, la géothermie, le nucléaire, l'hydraulique, etc.
D'accord. Bon, du coup, vous êtes toujours sur Graphite sur le 94.9 FM. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur graphite.net. Bon, du coup, grâce à Vincent, on a bien compris ce que c'était le solutionnisme. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions.
Du coup, avec ce qu'il a dit, pourquoi le solutionnisme technologique n'a pas encore résolu les problèmes environnementaux?
Oui, lui, il y a répondu. Voici sa réponse.
Donc, selon moi, le principal défaut de cette idée du solutionnisme technologique, c'est de faire germer dans l'esprit des gens l'idée qu'on va pouvoir vivre comme avant tout en émettant peu de gaz à effet de serre. Donc moi, j'ai vraiment du mal à y croire parce qu'on trouve de grosses, grosses limites au remplacement des ressources fossiles que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Si historiquement, on s'est mis à utiliser massivement du gaz, du pétrole et du charbon, c'est parce qu'on a trouvé là une utilisation facile d'une source d'énergie qui a permis littéralement de nous transformer en surhomme et de multiplier notre pouvoir d'action. On a remplacé énormément de travail humain par des machines qui étaient largement plus performantes que nous. Et on a réussi à dompter de mieux en mieux la nature. On a réussi à transformer les éléments de manière beaucoup plus rapide. Maintenant, on peut voyager partout dans le monde à une vitesse complètement folle. Et ce, grâce aux énergies fossiles qui sont des énergies donc très très faciles d'utilisation. Et quand on s'intéresse aux moyens pour remplacer ces énergies fossiles, on se rend compte que c'est très très compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule étude qui a montré qu'on arriverait dans un monde avec seulement des énergies renouvelables ou seulement avec des énergies renouvelables et du nucléaire à continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Déjà, il y a des applications type l'avion où il n'y a pas de solution directe et évidente pour pouvoir continuer à utiliser l'avion sans émettre de CO2. Et dès qu'on creuse dans toutes ces nouvelles énergies renouvelables, ou même dans la voiture électrique, on se rend compte qu'il y a des problématiques, notamment liées aux métaux derrière, qui sont très fortes. Il ne me semble pas qu'une seule étude ait montré qu'on arriverait à produire de l'électricité au niveau mondial avec 100% d'énergie renouvelable, ou on arriverait à faire rouler 7 milliards d'humains avec des voitures électriques ou à l'hydrogène. Donc pour résumer, je considère que cette idée du solutionnisme technologique, ça correspond plus à une vision très politique de l'avenir et une manière de rassurer les électeurs en leur disant « ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer ».
Eh oui, tout va très bien se passer dans le meilleur des mondes. Mais pour reprendre une bonne définition de l'effet rebond, en fait, c'est que dès qu'une innovation permet de diminuer la consommation ou d'augmenter la durée de vie d'un produit, eh bien, cette amélioration, elle va directement être investie pour faire du profit. Comme l'a déjà dit Manon, je crois, le petit profit n'existe pas. Donc voilà, en gros, il n'y a aucune réelle solution durable dans le solutionnisme technologique. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire, d'après Vincent, c'est en gros changer l'organisation de la société, changer nos habitudes. Ça, c'est très compliqué, et changer nos modes de consommation, en fait.
Donc en fait, là, qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement ? On veut du concret.
Alors du concret, vous allez en avoir. Parce que là, Vincent, il nous a préparé une réponse de malade.
Bah merci Vincent.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? C'est une question un peu compliquée et il faudrait énormément de temps pour y répondre. Donc je vais essayer rapidement ici de donner quelques ordres de grandeur. Le GIEC préconise aujourd'hui, pour limiter un réchauffement à plus de 2 degrés par rapport à l'ère industrielle, diviser par 3 nos émissions par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à 55 gigatonnes de CO2 équivalent émis par an. Et il faudrait passer à environ 20 gigatonnes de CO2 équivalent émis par an. Bien évidemment, chaque pays n'émet pas autant de CO2 l'un que l'autre. Donc chaque pays n'a pas le même travail à faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un Français doit diviser son empreinte carbone par 6, un Américain par plus de 10 et un Qatari par 25, alors qu'un Chinois doit seulement diviser ses émissions par 4. En gros, il faudrait que chaque humain ait une empreinte carbone d'environ 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc pour essayer de comprendre à quoi correspondent 2 tonnes de CO2 équivalent, vous pouvez prendre par exemple un Paris-New York en avion. Un Paris-New York en avion, c'est environ 1 tonne de CO2 émis. Donc ça veut dire que ça représenterait la moitié de l'empreinte carbone autorisée à n'importe quel humain sur Terre. Alors je vais dire un truc un peu horrible, je pense, mais la première chose qui me semble évidente pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire le nombre d'humains sur Terre. Puisque entre être 7 milliards ou être 9 milliards, ça nous autorise une marge supplémentaire d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est la sobriété énergétique. Donc ça veut dire réduire notre consommation d'énergie. Ça, ça implique directement de moins voyager, de moins se chauffer, de moins utiliser Internet, moins utiliser de biens de consommation transformés. Et enfin, la troisième chose à faire, c'est de modifier nos manières de produire de l'énergie. Donc ça veut dire arrêter d'utiliser des énergies fossiles que sont le gaz, le charbon et le pétrole. Et de remplacer ça, donc ça va passer par une électrification massive d'à peu près tous nos usages, puisqu'il faudrait en gros produire de l'électricité pour se chauffer, pour voyager, et donc produire bien sûr cette électricité à partir de moyens bas carbone, comme le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, le solaire, etc. Donc on peut aussi voir les choses poste par poste. Donc dans l'ordre, le premier poste d'émission de gaz à effet de serre dans le monde, c'est l'électricité. Donc à cause de nos dames, on est centrale à gaz et au charbon. Donc là, comme je vous l'ai dit, il faut les remplacer par des moyens comme le nucléaire, etc. Ensuite, il y a l'agriculture et la déforestation. Donc ici, on parle des émissions de méthane directes par les ruminants comme les vaches. On parle de la déforestation directe pour la création de nouvelles terres agricoles. Et on parle aussi des émissions de méthane des rizières et des émissions de protoxyde d'azote à partir des champs agricoles. Donc là, la première chose évidente, ce serait de réduire notre consommation de viande et de réduire le gaspillage, puisqu'on gaspille énormément d'aliments produits dans le monde, ce qui nous pousse à toujours de plus en plus exercer une pression sur les terres agricoles. Ensuite, il y a l'industrie. Donc là, on parle des émissions dues, par exemple, aux cimenteries. Donc pour fabriquer du ciment, on émet beaucoup de CO2. On parle aussi de l'industrie chimique, de la métallurgie, etc. Donc là, faut moins construire de bâtiments, faut construire des bâtiments peut-être différemment, et faut moins consommer de biens de transformation de manière générale. Puis il y a le transport, donc le transport avec pas mal de voitures, un peu de camions, un peu de bateaux, un peu d'avions. Bon, là, faut soit vous mettre des voitures électriques qui fonctionnent avec de l'électricité produite à partir de manière décarbonée, ou soit plus de transports en commun, moins voyager en avion, moins partir à l'étranger. Beaucoup de contraintes imposées pour les gens qui aiment bien voyager. Et enfin, on a les autres secteurs comme le bâtiment, donc les chaudières au fioul et à gaz, l'extraction des métaux, etc. etc. Donc il y a du chemin quand même pour atteindre ces 20 gigatonnes de CO2 équivalent émis par an.
Et oui, il y a vraiment beaucoup de chemin comme on l'a vu. Donc pour faire un petit résumé, vraiment très petit, de ce qu'a dit Vincent, je pense qu'on peut dire que un humain, il devrait consommer 2 tonnes maximum de CO2 par an. Forcément, on n'y est pas du tout, étant donné que, par exemple, un voyage Paris-New York, ça fait déjà 1 tonne. Et bon, pour diminuer ces émissions de CO2, quelles actions réduisent le plus ? Donc, premièrement, devenir végétarien. Donc, ne pas manger ni de chair animale, ni de poisson, enfin, vraiment, chair animale, tout ça. Donc, poisson, viande, crustacés, etc. Et aussi, arrêter de prendre l'avion, parce que ça consomme énormément. Et on le sait, ça. Sinon, d'autres solutions qui existent seraient d'utiliser les énergies renouvelables. Mais bon, on a encore beaucoup de taf à faire dessus pour que ça soit parfait. Donc, en gros, pour conclure, on a beaucoup de choses à faire alors qu'on est en urgence climatique. Donc forcément, ça va influer sur notre manière d'agir, le solutionnisme. Et ça nous pousse à ne pas nous questionner sur celle-ci. En gros, on ne se remet pas en question de notre système économique, par exemple. Donc en réalité, c'est vraiment un problème de conscience. On cherche des solutions aux problèmes plutôt que remettre en question l'existence de ces problèmes. Et on cherche de meilleures méthodes de recyclage plutôt que changer le fait de produire à partir des matières non renouvelables.
Mais du coup, avec ce que tu viens de dire, ça veut dire que le capitalisme, il aurait une influence sur cet effet.
Ouais, il a un petit peu une influence. Donc, par définition, le capitalisme, c'est une dynamique fondée sur l'accumulation du capital productif guidé par la recherche du profit. Et la plupart des enseignes commerciales continuent de vendre énormément de produits difficiles à recycler, mais faciles à produire. Cependant, j'imagine que vous avez aussi remarqué ça, mais j'ai l'impression qu'une mode du 100% écolo s'installe et modifie des façons de produire. Donc oui, il y a sûrement des petits commerces qui vendent des produits recyclables, nobles, tout ça, mais facilement dégradables, mais dans l'environnement, finalement... Il y a aussi beaucoup d'autres petits commerces qui doivent penser le contraire et profiter de cet effet de mode pour faire du profit. Alors, Clem et Manon, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une autre sorte d'économie.
Moi, j'ai juste entendu parler de l'économie circulaire. Je pense que c'est juste pour moins rejeter de déchets et plus réutiliser sous forme de cercle, mais je ne sais pas profondément ce que ça veut dire.
Ouais, tu es d'accord, Clem ?
Ouais.
Bah écoute, c'est exactement ça en fait. Il s'agit d'une économie circulaire parce que ça, en fait, ça se base sur une consommation sobre et responsable des ressources naturelles. Son but est très simple, grandement diminuer la consommation de produits et de déchets et réutiliser à l'infini un objet déjà existant en le donnant, le redesignant, etc. Donc je pense que c'est plutôt une bonne solution pour changer de société.
Ouais, bon. Je suis d'accord. Je pense que c'est... Enfin, il faudrait qu'on aille là-dedans plutôt que toujours vouloir une croissance économique plus forte. Mais dans ce cas-là, le consommateur dans tout ça, il se place où en fait ? Enfin, si on devrait un peu parler du consommateur, de tout ce qu'on a parlé depuis le début.
Alors, on va aborder un thème qui me plaît énormément, c'est la mauvaise foi des consommateurs.
Ça va être marrant.
Donc, pour mieux le comprendre, on va utiliser 2-3 chiffres clés sur notre consommation quotidienne en tant que Français. Et on va aussi donner des petites équivalences parce que des fois, si je vous parle de tonnes, Je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans ma vie quotidienne. Donc déjà, chaque année en France, une personne va consommer en moyenne 354 kg d'ordures ménagères.
C'est énorme.
Donc, si on fait un petit calcul énorme. Quand même, un petit calcul rapide, on se rend compte qu'on va jeter environ 1 kg de déchets par jour.
Ouais.
Alors le problème ici surtout, c'est que c'est un peu que la partie émergée de l'iceberg. Tout simplement parce que si on reste toujours en France, en tant qu'habitant habitant sur notre territoire, si on compte l'agriculture, le BTP, l'industrie, les usines, etc., eh bien chaque habitant produirait 13,8 tonnes de déchets par an. Si je vous donnais une petite équivalence, ce serait à peu près comme si on produisait plus de 5 camions poubelles par an. Mais là, bien évidemment, on prend en compte à la fois le poids du camion, mais aussi son chargement rempli. C'est environ 26 000 à 27 000 kilos. Bref.
Énorme, ouais.
Énorme.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup.
Donc voilà. Aussi, en 2019, ça peut peut-être être un chiffre qui est à la fois rassurant, mais à la fois qui peut aussi faire peur, c'est que 70% de nos déchets ménagers on dit qu'ils ont été recyclés. Mais du coup, on peut se demander, est-ce que c'est assez ? Déjà, ouais. Parce que là, on parlait de l'urgence climatique et tout, est-ce que c'est assez ? Mais surtout, bah, il reste quand même 30%. Hein,
c'est pas...
Ils sont passés où ? Voilà. Donc en fait, au final, on va avoir bien évidemment des solutions qui sont mises en place pour moins consommer, que ce soit en termes d'emballage ou choses comme ça. Donc par exemple, des épiceries, je suis sûre qu'on en a tous déjà croisé. Mm-hmm. Donc où on va te demander d'amener tes propres récipients, tes propres bocaux. Voilà, c'est ça exactement. En fait, tu vas faire tes courses, donc avec des bocaux en verre, t'évites donc les déchets plastiques, tout bête. On peut même citer une marque, Starbucks, qui va... offrir une réduction sur ton café si t'amènes ton propre gobelet. Alors là, du coup, on se dit, est-ce qu'on a vraiment croisé beaucoup de gens qui se baladent avec leur gobelet dans leur sac ? En fait, les gens le font pas vraiment, quoi. Donc on pourrait parler de la mauvaise foi, là, parce que ils diraient, oh, y a trop d'efforts à mettre, ou alors les gens ne veulent pas s'embarrasser avec ça, etc. On se demande alors un peu, ça va changer quoi d'avoir un petit gobelet dans son sac ? Et là, on a vraiment la question de l'écologie individuelle et puis du petit pas de chacun qui revient, quoi.
Ouais, on s'en rend bien compte. Et du coup, Clem, est-ce que tu aurais quelques petits tips à partager avec nous, par hasard ?
Alors oui, j'ai 3 petits tips qui pourraient être applicables au quotidien, que tout le monde pourrait faire, et surtout en colocation, en tant qu'étudiant. Voilà, des choses qui sont applicables, faisables. Même si, clairement, c'est pas non plus des petits tips révolutionnaires. Alors déjà, ça pourrait paraître bête, mais ranger son frigo. Parce qu'en fait, l'air va mieux circuler dans tout le frigo, et ça va permettre de consommer moins d'énergie pour garantir la conservation des aliments. Ensuite, si par exemple, on imagine que je veux absolument acheter un bidon de lessive en plastique, même si il faudrait pas de plastique, il vaut mieux que j'achète un bidon de 2 litres plutôt que 4 bouteilles de 1,5 litre. Tout simplement parce qu'une grosse bouteille, ça nécessite quand même beaucoup moins d'énergie pour être produit en fait. Voilà. Et le dernier petit tip que je pourrais vous donner, ce serait d'éviter la consommation de produits surgelés. Déjà pour votre santé, et ensuite il vaut mieux consommer des produits frais, même quand on a la flemme de cuisiner. Puisqu'en fait, leur dépense énergétique, elle est beaucoup moins importante lors de leur production.
Okay. D'accord. Mais d'ailleurs, je repensais avec la lessive que tu disais. Finalement, la lessive, c'est pas si compliqué que ça à produire. Mais il y a vraiment des manuels d'écologie qui expliquent ça hyper facilement. Je pense qu'on doit prendre du bicarbonate, des trucs comme ça, savon d'alerte, savon noir.
Je pense que ça peut être
noir.
Un truc hyper intéressant à mettre en place quand même.
Ouais. Vraiment, en plus, je pense qu'à Compiègne en Transition, l'association... un peu tout vert de l'UTC, je pense qu'ils doivent proposer ça.
Je pense qu'il y a moyen.
Mais du coup, tout ce que tu viens de dire là, c'est cool, on va mettre ça en application si ce n'est pas déjà fait. Mais est-ce que tu penses que ces petits pas sont finalement suffisants ?
Moi, si je peux donner mon avis, je trouve que tous ces petits gestes, certes, ils sont importants pour l'environnement, mais vraiment loin d'être suffisants. Déjà, les actions individuelles, elles ne font pas le poids si l'État, les collectivités, les entreprises ne s'engagent pas face à l'urgence climatique et la catastrophe environnementale. Et même si l'ensemble des Français adoptaient un mode de vie responsable de l'environnement, on baisserait nos émissions de 80% d'équivalent en CO2. Ça ferait 583 millions de tonnes, donc c'est énorme, ça paraît beaucoup. Mais en vrai, non, c'est rien comparé aux 6 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 émises par le groupe Total, par exemple. Donc, en plus, on pourrait quand même se dire que tout le monde ne peut pas adopter un mode de vie responsable, puisqu'il y a des gens en situation de précarité, et parfois on les fait même culpabiliser un petit peu, alors que, enfin c'est mon avis personnel, mais c'est surtout les industriels qui font du bénéfice sur le dos de notre planète. Voilà, donc c'est certes, vrai. Je trouve que c'est mieux que rien, et c'est en se serrant les coudes que peut-être un jour ça changera, enfin faut essayer de pas perdre espoir.
On espère.
Voilà, bah, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait déjà une heure, un peu plus d'une heure.
Ouais, là, ça, je regarde, ça fait 1h04 déjà.
Ah d'accord.
Ça passe vite.
Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour bah, déjà remercier les personnes qui nous ont permis de faire ce podcast. Donc bah, les personnes interviewées, Vincent Lemaire et Julien Richer, qui nous ont parlé du solutionnisme technologique. Mais aussi nos enseignants, Clément Mabi et Édouard Boutet, qui nous ont bah, permis de réaliser le podcast, tout comme les gérants de Graphite, Léo et Brian, qui nous ont laissé le studio à l'heure qu'il est.
Et aussi Mathéo, qui nous, ouais, nous a un petit peu aidé tout à l'heure.
Hein. Il est en service civique à la radio, et franchement, il fait bien son travail. Et je tiens juste aussi à remercier les musiciens du jingle, Elena, qui est avec nous, et son coloc Félix. Vous jouez très bien de la musique, voilà.
Voilà, on va écouter le jingle à la fin.
Voilà, exact. Mais en tout cas, c'est pas la dernière fois que vous nous entendez, puisqu'on va se revoir dans quelques semaines sur un autre podcast, sur les intelligences artificielles. Il y aura Elena, mais malheureusement, Clémentine et moi, on n'y sera pas. Ce sera des autres personnes de notre groupe. En tout cas, on a vraiment apprécié ce moment, enfin pour ma part. Donc on est toujours sur Graphite, sur la 94.9 FM. Donc n'oubliez pas de revenir, parce qu'on sera à nouveau présents.
On revient, on revient.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.